Morgan.
Hardigan présente Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, traduit de l'anglais par Louise Malagoli, lu par Sabine Napierala. Toutes les choses, ô prêtre, sont en flammes. Et de quel feu brûlent-elles? Du feu de la passion, vous dis-je. Du feu de la haine, du feu de l'engouement, de la naissance, de la vieillesse et de la mort. Elles brûlent du feu de la tristesse, des lamentations, du malheur, du chagrin et du désespoir. Adita Pariyaya Sutta, le sermon du feu. Première partie. 1345-1354. Chapitre 1. Vallée du fleuve Huey, sud du Henan, 1345. Le village de Zhongli gisait, aplati par le soleil, comme un chien épuisé qui aurait renoncé à trouver un coin d'ombre. Il n'était entouré que de terre jaune et nue, dont les craquelures évoquaient la carapace d'une tortue, ainsi que d'un parfum d'ossements et de poussière brûlante. C'était la quatrième année de sécheresse. Connaissant la cause de leur souffrance, les paysans maudissaient leur empereur barbare dans sa lointaine capitale du Nord. Comme toutes les choses reliées par un fil de chi, qui s'affectent mutuellement même lorsqu'elles sont éloignées, la valeur d'un empereur décide du sort de son empire. Le domaine du grand monarque jouit d'abondantes moissons. Celui du souverain indigne est accablé de crues, de sécheresse et d'épidémies. L'homme qui régnait sur l'empire du grand Yuan n'était pas seulement empereur, mais aussi grand Khan. C'était le dixième successeur du conquérant mongol Kublai Khan, qui avait vaincu la dernière dynastie autochtone 70 ans auparavant. Il détenait la lumière divine du mandat du ciel depuis 11 années, et déjà, il y avait des enfants de 10 ans qui n'avaient jamais connu que le désastre. La deuxième fille de la famille Zhou avait à peu près 10 ans en cette aride année du coq. Rêvant de nourriture, elle suivait les garçons du village vers le champ du voisin, car ce dernier venait de mourir. Avec son large front et sa tête anguleuse, tout à fait dépourvue des rondeurs adorables de l'enfance, elle ressemblait à un criquet. Comme cet insecte, elle ne pensait qu'à manger. Mais la fille étant habituée au repas monotone des paysans, et n'imaginant que vaguement qu'il puisse exister quoi que ce soit de meilleur, ses rêves se bornaient à en exagérer la quantité. À cet instant, elle était absorbée par l'image d'un bol de bouillie de millet. Son esprit l'avait remplie au-delà des confins du récipient. Le liquide frémissait sous une peau mince et tendue. En marchant, elle se demandait avec une angoisse voluptueuse comment elle en prendrait la première cuillerée sans en perdre une seule goutte. Du dessus, mais les côtés risquaient alors de déborder, ou par le côté, la catastrophe serait sans doute inévitable. D'une main ferme ou délicate? Elle était si obnubilée par son repas imaginaire qu'elle entendit à peine, en passant, crisser l'appel du fossoyeur. Une fois au champ, elle se dirigea tout droit vers les ormes décapités qui s'alignaient à son extrémité. Ces arbres avaient naguère été beaux, mais la fille s'en souvenait sans nostalgie. Après l'échec de leur troisième moisson, les paysans avaient découvert que leurs ormes gracieux pouvaient être découpés et mangés comme n'importe quel être vivant. Voilà qui valait la peine qu'on s'en souvienne, pensa la fille. Le goût brunâtre et astringent d'une racine d'orme 6 fois bouillie, qui vous rendait vaguement nauséeux et vous laissait les joues un peu rêches, ce qui vous rappelait avoir mangé. Mieux encore, la farine d'écorce d'orme mélangée à de l'eau et de la paille hachée, façonnée en biscuits et cuite à petit feu. Mais les parties comestibles des ormes avaient toutes disparu. S'ils intéressaient encore les enfants du village, c'est seulement parce qu'ils servaient d'abri aux souris, sauterelles et autres friandises. Un jour, elle n'aurait su dire lequel, elle était devenue